la première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Musée de la photographie à Charleroi. Sandrine Lopez, photographie arme de classe, Philippe Graton. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
On va dire le mot glauque, particulier, bizarre, étrange. Et en même temps différent, parce qu'il y a une esthétique qui est chaleureuse, elle. Donc on a cette opposition entre le sujet qui paraît bizarre, qui peut mettre mal à l'aise, et en même temps une chaleur qui émane des photographies.
Avec America Parasmart, Sandrine Lopez, Damaris Amao, Philippe Graton, Benji, Uma.
Quand j'ai vu la première fois la série, je n'ai pas pu m'empêcher, mais c'est typique d'une historienne de l'art, c'est de faire des rapprochements. Et les deux rapprochements qui me sont directement venus à l'esprit, c'est Diane Arbus et c'est Dolores Mara. Alors Diane Arbus, pour ce côté d'aller chercher chez les gens quelque chose qui est original, l'originalité, je dirais pas le monstre, mais juste quelqu'un d'original par sa manière d'être. Et ici, de le mettre encore plus en avant par la mise en scène, c'est-à-dire le décor arrière, le contexte dans lequel elle les photographie. Et Dolores Mara, par l'utilisation du flou, par le contraste des couleurs. Voilà. Et par cet univers aussi qu'a Dolores Mara de photographier la nuit, des choses qui l'attirent visuellement et qui est aussi dans un univers très étrange et très glauque. Par moment, par photographie. Je me sens proche quand je vois les photographies de Sandrine Lopez, de ces deux photographes-là.
Qu'y a-t-il au commencement de nos actes, à la source de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments? Qu'est-ce qui est au commencement d'un amour, d'un rêve? Qu'est-ce qui est à la source d'une pulsion, d'un cri, d'une angoisse? Je pense que c'est ce qui est à l'origine de ce qu'on ne comprend pas. Pour moi, il y a un moment donné où la science peut expliquer plein de choses, puis il y a une espèce de butoir comme ça, au-delà duquel on ne peut pas trouver. Et ça se passe dans le cosmos, on va dire, mais ça se passe aussi dans le corps et cette idée de toute une psychologie qui est quand même assez autonome, en fait. On ne maîtrise pas grand-chose dans justement la source de nos décisions, de nos pulsions, de nos... Et voilà, cette espèce de flou autour de cette grande question du commencement est quelque chose qui m'anime, en fait. J'aime voguer dans ce mystère-là. Voilà, je ne cherche pas des réponses, hein, mais je cherche vraiment à faire ce trajet des saumons, quoi. Vraiment cette idée de... Ils ont ce message en eux, quand même, qu'il faut remonter à la source, à l'origine. Je trouve ça dingue que ce message soit inscrit dans un corps de poisson. Qu'est-ce qui est inscrit dans le nôtre de corps? Ça, je n'en sais rien, mais le jeu de la fiction de remonter le fil est un jeu qui me plaît énormément.
Alors, on a une double image d'une femme qui expose son ventre de femme enceinte, qui est nue, qui a une sonde au niveau du vagin, donc on la sent prête à accoucher dans un univers assez sombre. Oui, on devine l'hôpital, mais l'hôpital est absent. On le devine uniquement par ce qu'elle porte, une chemise hospitalière, on va dire ça comme ça. On reconnaît l'hôpital, mais le reste de l'univers est plongé dans le noir le plus complet. Donc c'est plutôt l'hôpital des films d'horreur. Et elle appose cette photographie où cette femme expose son ventre à côté d'une autre photographie, un peu floue, avec une série de 1, 2, 3, 4, 5 porcs.
C'est un animal que j'ai côtoyé depuis que je suis petite, puisque j'ai passé beaucoup de temps dans une ferme qui appartenait à des membres de ma famille. Et donc moi, j'avais très peur des porcs. L'idée était de me confronter à cet animal que je trouve très intriguant, pour tout ce que je viens de dire. Et puis, la seconde image, c'est une image de femme enceinte qui est sur le point de subir une césarienne. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans les maternités pour photographier ce moment-là, avec quelques idées précises en tête. Et puis, dans les accouchements classiques, il y a toujours cet équipement autour d'un ventre avec des ventouses, des fils, etc. Le fait de passer en salle d'opération, fait quand tout ceci est retiré. Donc j'avais pour la première fois un ventre de femme enceinte, on va dire, nu, avec un éclairage que j'aime beaucoup dans les hôpitaux, puisque c'est un spot qui vient sur le ventre. Et donc l'association de ces deux images donne pour moi un effet très troublant de cet arrondi de cette peau et de la lumière qui tombe sur cette peau. Et je voulais aussi mettre cette tension entre qu'est-ce qui nous sépare des animaux, qu'est-ce qui nous en rapproche, quelle est la distance en fait entre ces deux espèces que sont l'être humain et l'animal. Donc à intervalles réguliers, j'essaie de poser cette question en faisant des photographies de certains animaux qui étaient là dans mon imaginaire, et s'ils sont là, je pense que c'est parce que ça véhicule beaucoup de questions. Le cheval, le porc, oui, le loup, le serpent, tous ces animaux sont fort utilisés aussi dans l'imagerie depuis des siècles, depuis l'origine même de l'art, avec cette idée du serpent qu'on voit sur les... Voilà, cet imaginaire et cette tension que j'essaye de provoquer dans cette idée du diptyque, en fait.
Musée de la photographie à Charleroi. Sandrine Lopez. Par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Mais avez-vous constaté, Marika Parasmart, que nous sommes dans un univers du corps avec son handicap, ses brûlures ou ses amputations?
Oui, pour certaines photographies. Par contre, pour d'autres, nous sommes dans un portrait classique où des scènes qui nous semblent classiques, mais qui, regardées par Sandrine Lopez, paraissent venir d'un monde étrange, on dirait d'une série d'horreur. Moi, je vois bien ça dans les séries américaines qu'on trouve actuellement. Chercher l'étrangeté, mais en même temps chercher l'humanité et la chaleur qui peut se dégager de cette étrangeté. Parce qu'un corps d'une femme qui se réveille dans un lit... Il n'y a rien de bizarre, rien de... Sur son corps, il n'y a aucune trace d'anormalité, entre guillemets. Pourtant, la manière dont elle est photographiée crée une histoire, une angoisse, quelque chose qui se passe. Et quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du cauchemar, de l'irréel. Tout comme le chien qu'elle photographie, un chien blanc, sur un fond assez sombre, on devine qu'elle a pris la photographie de nuit. Mais le flou du temps de pose fait qu'on est face, on ne sait pas si c'est un loup-garou ou un loup, tout simplement. Et pourtant, c'est un chien blanc. Donc, vous voyez, je pense qu'elle est très proche de Diane Arbus, de se dire, tiens, nous sommes dans un univers où tout peut être anormal, il n'y a pas de normalité qui existe, et c'est la manière dont on va photographier et amener l'image qui apporte ce côté étrange. Parce qu'une femme avec un serpent, oui, somme toute, voilà, mais dans l'univers de Sandrine Lopez, c'est sorti d'un cauchemar. Alors qu'une femme avec un serpent, ça peut être photographié de manière très sensuelle, très érotique. Chez elle, c'est un univers plutôt de cauchemar, de nightmare, comme diraient les Américains.
Avec America Parasmart, Sandrine Lopez.
Toujours cette question d'origine, hein. C'est vraiment l'envie de photographier la blessure de manière... J'allais dire de manière générale, mais en fait, non, c'est la blessure et certaines blessures. J'ai bêtement listé les profils que je désirais en lien avec la blessure. Donc c'est parti de quelque chose de très concret. Donc il y a ce terme très large de blessure, mais qui s'est traduit dans le réel par un bout de papier et une inscription sur une liste qui commençait d'ailleurs par un grand brûlé. Ensuite venait un amputé. En troisième position, je crois que j'avais mis le bec de lièvre, que je trouve une cicatrice très belle et très intrigante.
Sandrine Lopez.
Être face à un brûlé, ça me... Voilà, je me retrouve dans la position que j'aime... Amener, c'est la position de la fascination, c'est-à-dire cette espèce de tension entre j'ai une attraction folle pour ce physique, je ne peux m'empêcher de le regarder, et pourtant il y a une terreur qui pointe en dessous. Mais ce mélange est très très fort en fait, et j'ai toujours eu cette sensation, on croise dans les transports en commun, dans la rue, des gens brûlés à différents niveaux d'intensité, mais il y a toujours un trouble. Il y a toujours un trouble, et ce trouble-là, je voulais travailler dessus. Donc une fois ce mot inscrit sur cette liste, il y a ce moment où on sait qu'à un moment donné, on va rencontrer cette personne. Et on peut rencontrer 3-4 brûlés, ça ne va pas être cette personne-là. Et tout d'un coup, on sait que c'est la bonne personne. Et ça s'est produit à deux reprises, une fois dans un tram où j'ai rencontré les deux petits frères qu'on voit. Il y a un diptyque avec deux jeunes brûlés. Et la deuxième personne, c'est un portrait isolé, donc c'est un monsieur seul. Et cette personne, je l'ai rencontrée dans les bois, dans un parc à Bruxelles.
Elle cherche aussi l'humanité dans l'horreur avec cette jeune fille qui est complètement brûlée, en tout cas à 80% brûlée. Mais en même temps, il se dégage de son regard une humanité et une tendresse. On voit bien qu'il ne s'agit pas ici de photographier un monstre, mais bien un être humain.
Il y a toujours le premier degré. Pourquoi on travaille ? C'est vraiment des choses esthétiques, une puissance. Et il y a derrière de plus en plus des couches qui se révèlent. Et je pense que cette brûlure, enfin cette blessure-là, qui est la brûlure, je ne sais pas, il y a un imaginaire collé à la flamme, à l'épreuve du feu, à savoir qu'un être a traversé ça. Et puis la peau, c'est quand même cette première interface, hein. La chose qu'on voit en premier, c'est la peau, en fait. Et cette brûlure qui est souvent sur des grandes surfaces, c'est une blessure qui recouvre beaucoup. Et c'est une blessure qui abîme énormément. Et ce qui me fascine aussi, c'est que pour moi, quand j'ai demandé par exemple à mon premier modèle, un des plus jeunes, de retirer son t-shirt, dès qu'il a retiré son t-shirt, pour moi, c'est révélé un véritable paysage, hein, parce qu'on a parlé des animaux, mais il y a aussi du paysage dans mon travail. Et cette proximité aussi entre un corps blessé et un paysage, une montagne, ça aussi, ça me bouleverse. Cette proximité entre une chaîne de montagne vue de haut, comme il y a dans la série, et un corps, on est dans une map monde, quoi. On pourrait voyager dans cette brûlure comme on pourrait voyager dans une carte topographique, quoi. Mais je pense que la première motivation, et c'est ce qu'on disait au début de l'entretien, on ne la connaît pas. On ne sait pas si, dans l'enfance, on a croisé un brûlé et ça nous a marqué au point que ça s'inscrive quelque part et que ça agisse, en fait. Et que quand on en voit, ça réactive ce souvenir. Alors, est-ce que j'ai eu peur ? Est-ce que j'ai été séduite ? Est-ce que cette personne a eu... Donc voilà, on a beau mettre tout ce qu'on veut comme mot sur le pourquoi d'un geste, il y a un moment donné où ça bloque et c'est ce mystère-là qui fait naître les images.
Arché,
comme archéologie, on revient.
Ou
comme archétype aussi.
Tout ce qui est lié aux gueules cassées, je me souviens, il est évident. Et je pense aussi que cette destruction du visage, au-delà du fait que ce soit très impressionnant, parce qu'on a cet imaginaire de la blessure et de la souffrance subie, mais je pense aussi que ça ramène à l'animalité. Ça détruit une partie de la plastique humaine. Et ça l'amène, pour moi, les mâchoires déformées. Ça amène aussi à la figure du monstrueux, qui est un thème que je chéris parce que ça ouvre des portes incroyables. Je crois que monstruosité, bestialité, tout ça forme un bloc dans lequel j'aime évoluer, en fait. Toujours en gardant comme pivot la figure humaine. Je pense à cette femme qui avait aussi créé des masques pour reprendre les visages. Je ne sais plus le nom de cette dame qui a créé pour les gueules cassées des masques magnifiques où elle se basait sur le début du visage pour sculpter une fin de visage, pour leur redonner cette interface et ne pas être dans la figure du monstre jusqu'à la fin de leur jour. Je trouvais ça très très beau. Et à la fois dans le processus de transformation aussi, dans le processus esthétique, dans cette surcharge de volonté de perfection et de vie éternelle, on est en train aussi de vouloir lisser, de vouloir atteindre une espèce de perfection. On accepte mal les rides, la vieillesse, la blessure. Je pense que c'est en s'éloignant de cette réalité, du monstrueux et de la difformité, on s'éloigne de notre capacité à accepter que la vie nous marque, dans un sens accidentel, comme dans un processus tout à fait naturel, qui est celui de vieillir. Alors, oui, je comprends fondamentalement ces peurs, elles sont les miennes aussi, mais si on veut des armes pour vieillir un peu paisiblement, il faut aussi accepter que le temps nous marque. Et je pense que faire des détours par la très grande marque, ça permet aussi d'accepter la propre action du temps, en fait, sur nos visages, sur les visages qui ne sont pas forcément marqués par l'accident, mais qui... à chaque seconde, s'abîme, en fait. Et oui, il y a tout ça. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Je pense aussi que la brûlure et le fait qu'elle enlève aussi le relief, qu'elle enlève parfois des nez, des oreilles, nous amène au visage qu'il y a en dessous de la peau, c'est-à-dire le crâne. Et moins il y a de relief, plus on est proche. Je pensais à un des modèles des frères qu'il y a, qui n'avait à l'époque pas de nez ni d'oreilles. Il y a cette espèce de deux trous qui représentent... En fait, on n'a pas vraiment l'habitude de penser à ça, mais on n'a pas de narine, évidemment, dessous. Et donc, il y a ces espèces de deux fentes qui sont typiques, en fait, d'un visage de squelette. Et je pense qu'aussi, le fait de supprimer ça, les oreilles, le nez... Avoir ces deux yeux noirs, ça nous ramène aussi au-dessous, à ce qu'elle couvre cette peau et ce qu'elle nous empêche de voir tous les jours, c'est-à-dire la fin, ce qu'on va devenir au bout du compte, c'est-à-dire une tête de mort, un squelette. Tout ça, voilà, je pense qu'il y a des dizaines de couches, certaines que je peux formuler, parce que j'aime que mes images fassent des vagues. Hein. Je parle pour moi, après les vagues, elles appartiennent à chacun, hein, mais... Et je pense qu'il y a des dizaines de couches et qu'après, il y en a encore des centaines. Quoi.
Aussi, dans les ténèbres. Alors, oui, le rapprochement peut être fait entre cette peau tendue et cette peau de porc. Okay. Certains y verront peut-être la domination masculine. Si on porte un regard ultra féministe dessus, on peut dire, oui, la femme, c'est comme ces animaux qu'on envoie à l'abattoir, ça ne sert qu'à se reproduire, etc. Bon, voilà. Mais ici, ce qui, moi, m'attire... C'est, oui, l'histoire, mais cette histoire dans son côté le plus sombre, le plus glauque, le plus horrifique. Et c'est ces rapprochements qui sont pas du tout, je dirais, voulus à la prise de vue, parce que je ne pense pas qu'elle ait imaginé la scène du porc et puis elle s'est dit « Ah tiens, je vais coller ça avec un ventre de femme enceinte ». C'est un rapprochement qui est venu par la suite. C'est comme les enfants de cœur et le lit vide. Voilà, on a toute une histoire qui se déroule là, une histoire peut-être de l'horreur, voilà. On est dans un univers horrifique et je crois qu'elle l'assume pleinement. Vraiment pleinement. Et je trouve ça très intéressant.
Musée de la photographie à Charleroi. Sandrine Lopez. Photographie Armes de classe.
Alors ici on est dans l'exposition Armes de classe qui retrace une partie de l'histoire qui est, on va dire, pas mal connue mais peu connue. Qui est la naissance de ce qu'on va appeler, et je mets des guillemets,
America Parasmart,
de la photographie sociale, dans un contexte qui est particulier, qui sont les années 1926 à 1936, et surtout qui aborde cette question-là dans un pays qui est celui de la France, qui n'a pas la même histoire sociale que la Belgique. Donc les rapprochements qui sont faits dans l'exposition sont à prendre, pour moi, ça n'engage que moi, avec des pincettes. À la même époque, nous n'avons pas un parti communiste fort, comme c'est le cas en France. Et nous avons par contre chez nous un parti socialiste qui est extrêmement fort et qui, pour moi, est l'équivalent du parti communiste en France, en tout cas dans les actions. Donc voilà.
Damaris Amao, du Centre Pompidou. Photographie Armes de classe, qui était présentée en début d'année à Paris, à la Galerie de photographie.
L'engagement du photographe, en tout cas l'engagement de l'artiste, son militantisme, s'il y en a un, et l'utilisation de cette photographie ou de cet art de manière politique. Et donc on est en plein dans la propagande. Alors, dans un contexte qui est particulier, puisque c'est la montée, c'est la révolution russe en 1917, et donc avec la révolution du prolétariat, d'un côté, et puis de l'autre côté, la montée du fascisme. Donc on est dans un territoire historique qui est extrêmement dense. Et dans ce contexte-là, la création du Parti communiste français, son adhérence à l'Internationale communiste de Moscou et le fait de suivre les directives de l'Internationale communiste de Moscou va créer un vivier intéressant, mais c'est le même cas en Allemagne, d'un lien entre art et politique. Art et politique vont se mêler, mais avec une proposition qui est celle du prolétariat, donc de la photographie, on va dire, aujourd'hui sociale.
Et la question de cette exposition, quelle est-elle ?
l'apport de l'avant-garde photographique française dans l'engagement politique dans les années 30. Alors, faut savoir que très souvent en France, quand on parle des années 30 en France et de l'engagement, c'est plutôt la guerre d'Espagne ou le Front populaire. Et surtout, dans l'histoire de la photographie un peu plus générale, on pense bien évidemment aux exemples allemands ou soviétiques. Et la part de la France dans cet engagement militant n'était pas très bien cernée. Alors, il y a eu des prédécesseurs comme des Françoises de Noyelle qui ont commencé des recherches, mais c'était quand même une période mal connue. Et nous, on s'est attaché, notre point de départ, c'était l'AER, c'était l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qui était créée, fondée, alors un peu copiée sur l'idée d'André Breton, mais repris par Paul Vaillant-Couturier. C'était de faire un front culturel, artistique, intellectuel, contre le fascisme. Et dans cette association culturelle, il y avait plusieurs branches, la branche cinéma, la branche gymnastique, la branche chant et la branche photographique, où l'on retrouve les grands noms de la photographie qui vont marquer l'histoire des avant-gardes. Alors, je pense à Henri Cartier-Bresson, à Kertész, à Brassailles, Germaine Krull, Élie Lothar, Nora Dumas, qui faisaient partie, d'une certaine manière, de cette repolarisation de l'avant-garde photographique sous cet angle politique à partir du début des années 30.
Compliqué d'expliquer ça en quelques phrases, alors que l'exposition l'explique de manière assez intéressante, en pas mal d'images et en pas mal de rapprochements. Donc le lien entre la France et l'Allemagne est clair au niveau social. On retrouve ce qu'on appelle les APO, ça veut dire une association de photographes amateurs, mais qui existait déjà à Moscou et qui existait déjà en Allemagne et qui va être repris par le Parti communiste français. Et on voit l'arrivée de ce qu'on appelle l'AEAR, qui est plutôt un regroupement d'intellectuels artistes au service d'une cause sociale. Hein, je ne dis pas communiste, je dis sociale. Vous voyez, que je mets aussi des pincettes. Dans ce cadre-là, que ce soit les APO ou les AEAR, les artistes et les photographes vont participer de manière commune à pointer du doigt les inégalités sociales. On est à cette époque-là de la fameuse lutte de classe contre classe. Et donc, un rejet radical de la bourgeoisie. Dans ce contexte-là, certains photographes, comme Henri Cartier-Bresson, va prendre la carte du Parti communiste et va produire des images. Bien. Ces images vont être ensuite publiées à la fois dans Vue, qui lui n'est ni de gauche ni de droite, c'est plutôt, il est entre les deux. Mais en même temps, ces photographies vont être utilisées dans des publications qui, elles, émanent directement du Parti communiste. Et là se pose la question de la propagande. Et c'est ça qui est intéressant avec cette exposition, c'est l'utilisation de la photographie en fonction de son contexte de publication et de son contexte de visionnement. Et ça, je trouve ça très intéressant. Nos Regards, qui deviendra par la suite Regards, est un magazine qui émane du Parti communiste. Donc avec une certaine visée, avec une certaine construction aussi de l'image. La mise en avant de l'ouvrier, la force ouvrière, la mise en avant du héros ouvrier, du héros sportif, la mise en avant aussi de certains collages, mais les collages naissent en Allemagne à la même époque. Donc on reprend l'idée de collage pour montrer la victoire du prolétariat sur les forces en opposition, c'est-à-dire le fascisme. On retrouve ce modèle des APO. On le retrouve à la fois en France, on le retrouve en Russie, on le retrouve en Allemagne, on le retrouve en Espagne et on le retrouve aussi en Hongrie. Donc on le retrouve un petit peu partout. Le fait aussi que le prolétariat, qu'on va construire des images pour et par le prolétariat, c'est-à-dire des images qui soient lisibles par monsieur et madame tout le monde et qui n'aient pas une connotation intellectuelle ou élitiste. Donc on va éduquer le regard de l'ouvrier à l'image. Et l'image est quelque chose qui parle de manière directe. Donc les plongées, les contre-plongées vont avoir un sens, tout comme elles avaient du sens dans le cinéma soviétique de la même époque. On est dans une utilisation de la photographie dans un contexte précis, dans un contexte politique précis, dans un contexte culturel précis. N'oublions pas qu'à la même époque, nous avions en Allemagne la Nouvelle Vision, avec une nouvelle école dynamique de la photographie qui va être également utilisée. Rodchenko fait partie de la Nouvelle Vision, mais va travailler pour l'État et pour le Parti socialiste et communiste de l'époque. Donc c'est l'art au service d'une politique qui est une politique à l'époque, ici, qui met en avant le prolétariat à cause de la révolution russe. Avec des images qui sont extrêmement intéressantes. Mais d'un côté, que ce soit une propagande qui soit de gauche ou de droite, ce qui devient intéressant, c'est que le modèle est identique.
Musée de la photographie à Charleroi. Sandrine Lopez. Photographie arme de classe. Philippe Graton.
Mon premier métier, c'est la photographie. J'ai commencé très jeune. Très tôt, déjà, je faisais des reportages photos. Déjà avec le texte qui accompagnait les photos, puisque c'est écrire et photographier qui sont pour moi deux passions et qui ont toujours été indissociables, notamment pour l'agence Sigma en France, qui était une agence de presse photographique. Et puis, c'est vrai que les années où je me suis occupé de l'œuvre paternelle, on donnait un coup de main à mon père, ça devait être tout à fait ponctuel, et en fait, j'ai jamais arrêté, parce que l'œuvre de Michel Vaillant méritait ça, mais j'ai jamais non plus abandonné l'activité de photographie, pensant longtemps que ces deux activités, écriture de scénarios pour la bande dessinée d'un côté, photographie des reportages de l'autre, étaient concurrentes, voire même antagonistes, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, je faisais la même chose dans les deux cas, c'est raconter des histoires avec des images. Et que ces deux métiers, en fait, se nourrissaient l'un l'autre. J'ai appris beaucoup de choses en dramaturgie, en scénario, qui m'ont aidé à composer des reportages photographiques. Et la photographie m'a aussi beaucoup aidé quand je donnais des indications aux dessinateurs sur les scénarios, pour les cadrages et toutes ces choses-là. Donc, en fait, tout ça, c'est relié. Aujourd'hui, je suis heureux de mener à bien, de révéler un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille photographiquement depuis 5 ans. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
On va dire une zone qui va potentiellement être exploitée en futur aéroport près de la ville de Nantes. Et c'est une zone où on a évidemment expulsé les habitants pour pouvoir créer et accueillir cet aéroport, et c'est un combat que les habitants, les citoyens mènent depuis les années 60 contre l'implantation d'un aéroport dans cette zone qui est assez verte et assez végétale.
C'est vrai que l'analogie qui pourrait être faite avec un plateau, même si on est tout à fait là à l'inverse de la société du spectacle, l'analogie qui pourrait être faite, c'est que c'est un lieu, Notre-Dame-des-Landes, pour resituer, c'est quand même une zone de 20 km², 10 km sur 2, en pleine nature, en plein bocage à 20 km de Nantes, que des opposants à un projet d'aéroport ont envahi et occupé pour empêcher la construction de cet aéroport. Et pour rester sur place, ils ont construit des cabanes et des barricades et des chicanes. Et pendant 10 ans, ce lieu a été en dehors de la société. Plus aucun policier n'osait y rentrer, sauf une tentative d'expulsion avec un déploiement de forces de l'ordre le plus important qu'il y a eu en France depuis mai 68, qui a eu lieu en 2012 et qui a été un fiasco pour les forces de l'ordre. Le préfet de Loire-Atlantique avait baptisé d'ailleurs son opération « Opération César ». Je crois qu'il n'avait jamais lu un Astérix de sa vie. Et ce qui fait qu'en fait, les zadistes ont eu une paix royale et ont pu développer là un essai, une tentative d'autres sociétés, d'autres rapports entre les gens, d'autonomie, de respect de l'environnement, de construire avec un impact léger, d'échanger sans argent, d'échanger aussi bien ce qu'ils cultivaient, ce qu'ils fabriquaient, mais aussi les techniques, les savoirs. Et la seule analogie que je pourrais faire avec le plateau de cinéma auquel vous faisiez allusion, c'est que cet endroit était préservé des intrusions, c'est-à-dire que ce lieu n'était consacré qu'à ça. Ce qui s'est passé sur place est extrêmement étonnant et n'a pas été documenté. Les zadistes détestaient les gens avec des appareils photo, et on peut les comprendre parce que c'était soit des journalistes français qui souvent ne donnaient qu'une image très caricaturale de ce mouvement, de la ZAD et de ce qui s'y passait.
Philippe Graton a eu beaucoup de mal à entrer avec ces gens qui viennent de tous bords.
Il parlait des crasseux de la ZAD, des anarcho-punks, sans jamais essayer de s'intéresser un peu plus à ce qui se développait là-bas. Et les autres qui venaient avec des appareils photo, ben c'était les flics, en fait, pour essayer de les photographier, de les identifier, recouper avec des photos de manifestations et les arrêter. Et donc, arriver là-bas, comme je l'ai fait avec un appareil photo, la bouche en cœur, tout à fait naïf, inconscient du combat qui se menait sur place, parce que moi, j'allais là pour photographier des cabanes. J'avais photographié des cabanes de potager urbain à XL, j'avais trouvé ça très très beau. Je me suis dit, tiens, là-bas, les cabanes qui font, ça doit être magnifique. Et je suis parti là-bas en me disant, je vais photographier des cabanes sans du tout me douter de l'ampleur de ce qui se jouait sur place.
Un squat, on va appeler ça, un squat de 1500 hectares.
Il y a d'abord ces architectures de cabanes, puisque au départ, c'est ça que je vais chercher, une beauté esthétique. Et ces cabanes qui sont construites, ça a une dimension écologique, c'est une dimension de rêve, d'aventure, mais ça a aussi une dimension politique, parce que ce sont des cabanes de combat. Et puis elles représentent aussi la forme de pensée de l'Azad qui est de tout faire ensemble et de s'entraider. Et donc il n'y a pas une cabane construite par une personne, c'est toujours un ouvrage commun. C'est très intéressant.
Dans lesquels ces gens, ben oui, ils squattent de manière citoyenne et ils proposent une nouvelle société. Ils ne proposent absolument pas comme modèle, mais ils proposent une société qui fonctionne sur l'ordre du partage, de la réciprocité et pas du tout sur le mode financier. Donc dans les années 60 commence cette espèce de combat contre cet aéroport avec certains paysans et certains citoyens. Il y a eu pas mal de conflits avec la police et l'État, pas mal de recours en justice qui ont été faits, et la situation est encore identique aujourd'hui. On ne sait pas si cet aéroport va être implanté ou pas, et le projet est toujours en marche. Entre-temps, pour occuper ce terrain de 1500 hectares, eh bien, certains paysans et certains citoyens vont demander à des personnes de venir occuper ce terrain qui est à la base inoccupé. Et va se construire comme ça des maisons, des cabanes qui sont complètement hors normes, un système qui est un système économique viable et qui fonctionne, mais en circuit clos, où personne n'est laissé de côté, assez citoyen quand même, et où Philippe Graton a quand même passé entre 4 et 5 ans à photographier de manière régulière, d'abord à se faire accepter, ce qui n'est pas facile. On voit bien comment les Gilets jaunes acceptent la presse. Alors imaginez-vous des squatteurs, comment accepter un photographe, un intrus, un déformeur d'informations. Voilà, on connaît tous les propos contenus des Gilets jaunes. Et bien, imaginez-vous ce même contexte-là pour cette ZAD.
Je suis allé là-bas à la recherche de cette beauté esthétique et j'ai rencontré en fait une beauté humaine parce que, en me faisant très mal accueillir au départ, je suis obstiné. J'y suis retourné, j'ai essayé de comprendre un peu. Là, il y en a qui ont eu la patience de m'expliquer ce qui se passait, ce qui se jouait sur la ZAD, de m'emmener à d'autres endroits pour voir des cabanes que j'aurais jamais vues sans eux, sans qu'ils m'y amènent, des choses extraordinaires. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens avec qui je parlais étaient des gens qui avaient tout quitté pour aller vivre leurs idées et expérimenter ce en quoi ils croyaient pour le futur. Et ces gens-là faisaient ça. Et ces gens-là faisaient ça. Ils le font toujours, parce que contrairement à l'image qu'en a donné les médias et surtout le gouvernement français l'année dernière, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, après des affrontements terribles qui ont eu lieu en avril-mai 2018, où j'étais pratiquement le seul à faire des photos, certains sont ici à l'exposition à Charleroi, la ZAD n'a pas du tout été évacuée et détruite. Une partie a été scandaleusement détruite, j'ai parlé de vandalisme d'État même, parce qu'il y avait des endroits tout à fait autonomes, autosuffisants, qui étaient des vraies trouvailles en termes de solutions qu'on recherche pour l'écologie, pour l'énergie, pour ces choses-là, qui ont été détruits alors que ça gênait personne. C'était presque une opération punitive. Ah, on a dû abandonner le projet d'aéroport à cause de vous, mais regardez ce qu'on va faire de vos cabanes. C'était un peu ça, hélas. Mais les zadistes sont toujours là. Ils ont développé sur place une agriculture communautaire. C'est un précédent dans l'histoire de France, ce sont des terres conquises par la lutte que maintenant, on parle d'un tiers de la ZAD à peu près, d'environ 500-700 hectares, qu'aujourd'hui, ses opposants occupent, cultivent, entretiennent avec des baux de fermage de 9 ans tout à fait légaux pour nourrir d'autres luttes, pour pas pour vendre sur des marchés bio, mais pour pour s'entraider entre autres mouvements inspirés de celui-là.
Il va y aller par petits pas en photographiant d'abord eh bien, les cabanes, les maisons qui sont construites par ces gens-là en récupération. Et chaque maison est étudiée, chaque maison est dessinée et construite en collectivité. Et chacun est libre d'habiter dans une maison qu'il a imaginée et qu'il a construite avec l'aide des autres. Donc on est vraiment dans un système de solidarité, de coopérative et de coopération, c'est plutôt pas mal.
Oui, pour le clin d'œil, on va dire que ma faute de goût énorme la première fois que je suis allé sur la ZAD, la première fois que je m'y suis rendu, parce que j'avais lu quelque part que c'était un bocage détrempé, une zone spongieuse avec des chemins de terre impraticables parce que les ornières étaient énormes. Je me suis dit, oulala, et ça fait 20 km. Je vais demander à un copain de me prêter un 4x4. J'ai demandé à un ami qui m'a dit, oui, je vais te trouver ça. Et il m'a, quand j'ai vu ce 4x4, c'était une espèce de gigantesque pick-up à l'américaine. Bon, mais tant pis, c'était trop tard. J'ai chargé mon matériel photo dedans et je suis arrivé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans un gros 4x4 rutilant. Ça a été évidemment très mal pris. J'ai plus recommis l'erreur. Hein. Toutes les fois où j'y suis retourné après, c'était à pied ou à vélo, mais c'était plus. Ou avec une voiture de location du Super U à 6 euros par jour, mais c'était plus avec un gros 4x4, évidemment, évidemment. J'ai appris seulement l'année dernière, donc 4 ans après, que pendant ce séjour, ce premier séjour où j'étais resté sur la ZAD en me déplaçant avec ce 4x4, il y avait eu un énorme débat auprès des zadistes, entre ceux qui disaient que j'étais un flic infiltré, ceux qui disaient ceci, et savoir on le brûle ou pas ce 4x4. Donc ils étaient déjà tous avec l'essence, les allumettes à la main, et il y a une partie des zadistes qui a dit non, je pense que c'est un type sincère, il se rend pas compte, faut pas le lui brûler. Voilà, donc l'ami à qui j'ai rendu le 4x4 ignore totalement ce qu'il a risqué.
Donc il commence par la série des cabanes, et puis au fur et à mesure qu'il se fait accepter, qu'il montre ses images aux habitants de la ZAD, il va pouvoir aller plus loin, il va pouvoir montrer les combats et il va aussi pouvoir montrer l'organisation qui est déployée par ces gens dans cette collectivité.
Vous allez rencontrer Benji et Uma, qui sont deux zadistes, on va dire, historiques de Notre-Dame-des-Landes.
La maison que j'habite, c'est plutôt une cabane qui fait un bon 50 mètres carrés. Une cabane d'abord de 5 mètres par 5 mètres, à laquelle est ajoutée une pièce de 4 par 3. Tout en bois, donc la structure, c'est un ancien hangar dont on a récupéré les poutres et avec lequel on a, parce que je ne l'ai pas construite seule, la cabane, avec laquelle on a fait la structure. Et ensuite, avec beaucoup de palettes et de planches de récup, on a fait le bardage extérieur, intérieur, plancher, plafond, et l'aménagement au gré des récups de morceaux de bois divers et variés. En clair, ça fait un espace de vie, une petite terrasse, une chambre en mezzanine et une chambre indépendante. Avec une grande baie vitrée plein sud, la moitié de la toiture est une terrasse en fait, et l'autre moitié de la toiture est une toiture monopente, en tôle, là encore récupérée. On fonctionne en électricité avec deux petits panneaux solaires sur batterie de voiture, ça nous fait l'éclairage et un petit transfo 220 pour l'ordinateur. Et le terrain sur lequel la cabane est, c'est une toute petite parcelle qui, en 2013, dans la dynamique de réoccupation des terres, après l'opération d'expulsion, en 2013, parmi d'autres choses, il y a eu sur cette petite parcelle une plantation de vergers, d'un petit arboretum. Moi, je suis arrivé en 2014, je l'ai trouvé en l'état, et en discutant avec le voisinage, il a été convenu que je puisse m'y installer, construire une cabane et avoir un regard plus assidu sur le verger.
Je crois qu'on avait commencé à planter des arbres en fait aussi, et un verger en 2013, après l'échec de l'opération César, donc tentative d'expulsion sous le gouvernement de Hollande. Et je pense que c'était un moment important aussi parce que c'était la première fois où on disait on plante et on pourra récolter les fruits quoi. Et elles y sont toujours, et elles commencent à donner les fruits.
C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs à l'huissier quand il s'est présenté à nous alors que la cabane en était à l'état de structure. Il nous faisait entendre que la cabane serait détruite dans les 3 années à venir et qu'on n'aurait pas le choix de ça. Et on lui avait répondu que plutôt dans 7 ans, les vergers donneraient leurs premiers fruits comestibles. On est pour l'instant 6 ans plus tard. 5 ans plus tard. Ouais. Encore 2 ans.
Et a priori, on continuera à faire pousser des arbres et à cueillir des fruits.
Uma, c'est intéressant parce qu'au départ, elle est belge. Elle vit là-bas depuis des années et c'est vraiment un des personnages d'ailleurs qui se trouve représenté sur les photos qui sont exposées ici à Charleroi. Et le second s'appelle Benji. C'est rarement leur vrai nom, hein. Mais le second s'appelle Benji, et lui, il a aussi été de toutes les luttes, y compris celles qui ont été extrêmement violentes au printemps 2018. Et Benji, surtout, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur les motivations de plusieurs jeunes qui étaient là.
Donc on pourrait parler d'un système altermondialiste complètement différent.
Le fait de garantir les terres, ce qui est en bonne voie, puisque là on a garanti 310 hectares, ce qui est plus ce qu'on cultivait avant l'abandon du projet. Et c'est évidemment ensuite d'acquérir les surfaces bâtissables, les bâtis, via le fonds de dotation qu'on a créé pour ça, pour pouvoir acquérir du bâti de façon sortir ces lieux-là des spéculations immobilières, sortir ces lieux-là des logiques dans lesquelles elles sont, avoir ensemble, se partager les surfaces bâtissables. Donc d'abord garantir les endroits qu'on habite déjà, et ensuite de nouveau prendre et acheter les terres bâtissables qui nous ont été détruites.
Benji et son ami ont construit de leurs mains une cabane magnifique, c'est presque une maison, et ils m'ont expliqué que dans la société, ils ne parvenaient pas à se loger, parce qu'ils étaient au chômage comme beaucoup de jeunes Français. On se retrouve sans emploi facilement parce qu'on est trop jeune, trop vieux, trop qualifié, pas assez qualifié, enfin il y a plein de raisons. Si on n'a pas des fiches de salaire, on ne peut pas se loger. Si on ne peut pas se loger, on est précarisé, on se retrouve dans la rue, enfin voilà. Et lui, en arrivant sur la ZAD, il a construit sa maison. Il a trouvé en plus un rôle et une utilité là-bas sur place, il vous en parlera mieux que moi. Mais c'est lui qui m'a dit, c'est fou parce que c'est ce système qui fait de nous des pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches de tout ce qu'on sait faire, de notre énergie, de nos talents. Et c'est parce qu'on se retrouve dans une société qui ne nous donne pas accès à du travail, à des choses administratives qui nous permettent de louer un jour un logement qui était occupé par d'autres avant, qui sera occupé par d'autres après. Ici, on a construit de nos propres mains une maison qu'on habite dans tous les sens du terme. C'est nous, cette maison. Et on a retrouvé un rôle. On s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout précarisé, pas du tout pauvre. Et on a retrouvé une dignité ici. Et ces gens oublient qu'ils ont cette dignité et qu'ils ne sont pas pauvres.
Un laboratoire possible, oui, effectivement, d'une certaine manière. Et je pense qu'aussi, ça, c'est un des enjeux aujourd'hui pour nous, c'est de comment faire perdurer cette expérience à l'heure où des milliers de jeunes se mobilisent pour le climat. Je pense qu'on ne peut plus nier la catastrophe vers laquelle on va ou dans laquelle on est déjà d'ailleurs. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a énormément de choses là qui se cristallisent dans les formes de lutte et les formes de vie qu'on mène sur la ZAD qui sont, je pense, toujours d'actualité et qu'il faut faire perdurer. Je crois également que maintenant, nous avons gagné contre l'aéroport. On est encore en train de lutter pour pouvoir maintenir les activités et tout ce qui s'y est construit. Mais on a aussi besoin de continuer à se lier à des luttes. Un des objectifs, je pense, pour nous, c'était de comment, une fois l'abandon obtenu, être toujours un lieu en circulation et un lieu qui puisse aussi un peu rendre la monnaie et devenir un grenier des luttes, un endroit depuis lequel appuyer des choses ailleurs. Donc je pense que oui, c'est un laboratoire, mais qui est relié à des milliers d'autres personnes et d'autres luttes qui sont aujourd'hui d'actualité, comme en France les Gilets jaunes, la jeunesse qui lutte pour le climat et pour qu'on puisse continuer à vivre sur cette terre. Ouais. C'est dans ce sens-là que je pense que c'est un laboratoire, mais qui est ouvert.
En effet, un certain nombre de personnes, le sentiment que c'est un laboratoire, que c'est une vie désirable, que c'est un peu un futur, ça, on pourrait, enfin moi qui l'habite depuis 5 ans, c'est sûr qu'au présent et là actuellement, et en plus l'avenir qu'on dessine, qu'on se prévoit, est désirable. Moi en tout cas, il m'est désirable. On a une recette qui est propre à l'endroit et aux personnes que ça a réunies, et que c'est pas forcément transposable partout ailleurs, mais que d'autres choses, avec d'autres formes, peuvent être faites ailleurs. Et comme le disait mon ami, on est bien, nous, dans l'idée d'être liés à ces autres territoires en lutte, à ces autres initiatives, même ponctuelles, de partout, de tous les territoires.
Sur les choix de vie, je pense qu'effectivement, il y a quand même la dimension, je pense, collective, à la fois d'accès à la terre, donc pour pouvoir faire un autre type d'agriculture aujourd'hui, mais aussi la dimension pédagogique qui est très fort chez nous, du fait de chantiers participatifs et de l'envie de faire circuler des savoir-faire dans cette génération qui est la nôtre, mais aussi avec toutes les personnes qui sont plus âgées et de qui on a énormément appris. mine de rien, hein, c'est quand même des savoir-faire qui sont en train de disparaître. Et je pense qu'il y a un enjeu crucial. Enfin, c'est important de s'en saisir, quoi, aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'est que paysan, enfin, qu'on reste toujours chez nous, puisqu'il y a cette dimension collective qui nous permet de s'engager dans d'autres luttes, de faire différentes activités, de ne pas devoir s'endetter pour pouvoir commencer une activité de production agricole ou autre, d'ailleurs. Et ça, c'est, je pense, c'est quelque chose qui est très désirable aujourd'hui, vu ce qu'on nous propose dans ce système, quoi. Oui, ça c'est sûr. Tu te sens un peu moins seul et puis ça donne une force collective et que je pense qu'elle rayonne parce que beaucoup de gens s'y reconnaissent ou ne se retrouvent peut-être plus dans le salariat tel qui, enfin voilà, ou qui n'arrivent même pas à trouver de travail d'ailleurs. Donc ça, c'est des questions pour moi très importantes aujourd'hui.
C'est vrai que on parle de savoir-faire, les savoir-faire qui sont maintenus, transmis ou pratiqués sur la ZAD sont à la fois maraîchers, mécaniques, de charpente, artisanat. Et l'idée, c'est de les prolonger, ces savoir-faire, parce qu'ils sont autonomisants aussi. Parce qu'ils nous rendent moins dépendants de machinerie ultra-moderne. Bien qu'on ne soit pas fermé à ça.
Classique, mais, ouais, de la marchandise.
C'est ça. Et ouais, des enjeux que ça génère, et existentiellement, comme dans le salariat. Et je pense, ouais, comme tu le dis, que il y a de nombreuses personnes qui nous regardent comme, enfin, qui regardent cet endroit, cette expérimentation comme super, comme futuriste et tout ça, parce que ce qui se vit au quotidien pour la plupart des personnes n'est pas désirable. Le fait d'être dans un salariat lourd, avec en plus la lourdeur administrative, quoi qu'on entreprenne, avec en plus les freins financiers et les menaces financières permanentes, et l'individualisme qu'on est beaucoup dont on souffre. Tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins présentes, voire pas présentes dans ce qu'on vit nous, dans ce qu'on traverse, parce que transfert de compétences, parce qu'on change. Parce que on peut se permettre de se dire, pour le faire court, qu'on a trop de boulot pour travailler et qu'on est content de vivre comme ça.
Trop de boulot pour travailler.
Je vais encore faire un détour par le sud de la France et puis je rentre dans une petite semaine. Et quand je vais rentrer, par exemple, il y a un chantier de menuiserie qui est en cours, qui dure un mois, lors de laquelle on organise aussi, par exemple, avec une bibliothèque à laquelle je participe, qui s'appelle Le Talus, qui existe depuis maintenant deux bonnes années. On organise des soirées lecture, des projections de films autour de la question de la construction. C'était aussi une manière de voir de multiples manières nos activités, quoi. Donc, les travaux agricoles, va y avoir des récoltes à venir. Moi, je fais du maraîchage aussi par ailleurs, donc il y a toujours un peu de maraîchage, de légumes qui poussent. Et sinon, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui font des chantiers de construction, d'autres qui s'organisent avec la jeunesse en ce moment aussi beaucoup à Nantes, parce que c'est tout près, ou avec des gilets jaunes du coin, encore pour leur prochain rendez-vous. C'est un ensemble, quoi. Il y a des travaux agricoles, mais aussi d'implication et d'engagement politique.
Par exemple, là, on rentre, donc l'automne et l'hiver approchent. On rentre aussi dans une période où on va passer pas mal de temps dans les bois, dans le bois de Roanne notamment, qui est le bois le plus important sur la ZAD, qu'on entretient en fait depuis quelques années, dans une logique sensible de préserver certaines essences ou certains arbres pour leur aspect, pour leur beauté, pour les souvenirs qu'on a, mais aussi diversifier les essences dans ce bois, qui était essentiellement un bois en douglas. Et donc l'idée, c'est à la fois de faire notre bois de chauffe, et de le distribuer à l'échelle des personnes participantes et des lieux collectifs, des lieux qui sont souvent utilisés par le mouvement, pour le mouvement, mais aussi des habitations qu'on s'est faites, qui sont plus personnelles. Et c'est aussi de produire du bois d'œuvre. Donc on va bien, le cheminement est bien de la graine à la poutre.
Musée de la photographie à Charleroi. Sandrine Lopez. Photographie arme de classe. Philippe Graton. Avec America Parasmart, Sandrine Lopez, Damaris Amao, Philippe Graton, Benji, Uma.
Il y a des personnes qui s'intéressent aux questions pédagogiques et des personnes qui s'intéressent aux questions de soins. Il y a des enfants sur la ZAD aujourd'hui qui vont dans l'école publique dans le village à côté, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, ils s'organisent deux fois par semaine pour faire une garde par, enfin, une mini-crèche, quoi. Donc une dizaine d'enfants qui grandissent aussi ensemble sur ce territoire et qui passent une journée ensemble dans la forêt, dans les champs, en dehors du cadre institutionnel de l'école. Mais par ailleurs, il y a toujours aussi un lien avec le village. Et d'ailleurs, c'est, pour nous, c'est important aussi de voir comment on grandit sur ce territoire. Et sur la question du soin, ça se pose sous différentes, de différentes manières, sous différentes facettes. Il y a des gens qui, par exemple, s'intéressent à la question des plantes médicinales et tout ce qui est soins alternatifs, de l'ostéopathie, etc. Des personnes qui sont formées et qui pratiquent aussi. Il y a des jardins de plantes médicinales. Et puis, il y a des liens forts avec des professionnels de santé, que ce soit médecins, infirmières ou autres, qui sont souvent venus en appui ces dernières années lors d'affrontements avec la police et quand on a eu des nombres de blessés délirants, quoi, des personnes qui ont perdu une main, des mains, qui sont marquées à vie par la violence policière en forme de grenades, flashball et gaz lacrymogène surtout. Et donc voilà, il y a des liens avec ces personnes-là qui perdurent et qui mènent des réflexions ensemble autour du soin. Ouais.
Et qui sont présentes encore dans le quotidien, hors des temps forts de tension. C'est quand même des personnes qu'on peut solliciter facilement, qui seront disponibles pour transmission de compétences ou pour soins, vraiment.
Ouais, il y a une sorte de réseau de soutien, je pense, même si par ailleurs, des gens vont chez le médecin ou à l'hôpital quand il le faut, voilà. Mais oui, le but n'est pas d'être en autarcie, mais de pouvoir s'intéresser à ce qui fait notre vie dans toute sa richesse et de manière qui nous dépasse, nous, en tant qu'individus, et toujours dans une élaboration collective aussi, qui font croiser des mondes. Par exemple, le médecin du village à côté ne serait peut-être jamais venu sur la ZAD si à un moment donné il n'y avait pas un petit groupe de personnes qui se posaient des questions autour du soin, qui sont allées aussi rentrer en contact et puis dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, depuis là où on est, pour soutenir d'abord cette lutte contre un aéroport, puis aujourd'hui créer un avenir désirable sur ce territoire et ailleurs.
Musée de la photographie à Charleroi, Sandrine Lopez. Photographie Arme de classe, Philippe Gratton, par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.